Bien, reprenons désormais où nous en étions pour examiner ce qui se passe de l'autre côté du fort, c'est-à-dire dans l'angle nord-ouest. Cet angle a été fouillé par Michel Redé et il était, au moins à partir de l'état 3, mais probablement déjà auparavant, la zone où se trouvaient les appartements du curator praesidi, c'est-à-dire ce que les textes sur Ostraca nomment le prétorium. Deux indices concordants permettent de l'avancer. D'une part, c'est là que se trouvait le sanctuaire, nous allons le voir au moins dans la phase que j'appelle état 3, et d'autre part, c'est dans cette zone qu'on a mis au jour des ostracas de nature administrative, des copies de circulaires administratives et des comptes de blé. Alors vous avez ici une vue d'ensemble de ce secteur fouillé par Michel Redé. Ici se trouvent les citernes, là le sanctuaire que je détaillerai tout à l'heure, et puis cet ensemble de constructions qui est probablement, donc, ou même certainement, les appartements du curator, car dans ces pièces-là, on a trouvé des dépôts d'archives qui montrent que c'est là qu'il se tenait, puisqu'il y a à la fois de la correspondance administrative, mais aussi des listes de tours de garde, et on voit donc que l'administration du fort se fait à cet endroit-là. Dans ce secteur, l'état 1, c'est-à-dire l'état primitif du fort, est marqué comme partout ailleurs par la construction de murs de pierre qui sont assez bien appareillés et assez bien construits, comme vous voyez là, bien disposés régulièrement, murs qui reposent, comme tous les murs de cette période, directement sur l'île du Wadi, c'est-à-dire le lit de base, et qui dessinent de grandes pièces, notamment les pièces 7, 8 et 6 ici. Pièces qui seront par la suite subdivisées, comme nous allons le voir. Il y a une phase 2 qui pourrait correspondre, donc un état 2 qui pourrait correspondre à peu près à l'époque où l'on construit le grenier dans la partie nord-est du fort, à des réaménagements partiels, notamment marqués par la construction de piliers centraux ici, et qui en quelque sorte monumentalisent les appartements du commandant. Lié à ces piliers, Michel Redé a pu mettre au jour des sols qui sont faits d'un épais niveau de terre battue qui contient de la céramique à parois fines d'Assouan et quelques tessons de ces gourdes fabriquées à Assouan qui sont assez caractéristiques de la deuxième moitié du IIe siècle. Donc ça coïncide à peu près bien avec ce que nous avons vu dans l'angle nord-est du fort. Donc voici une vue de ces deux pièces avec le pilier central, vous les voyez ici, qui sont construits à cette époque-là, et ensuite ça, ce sont les reconstructions postérieures. Au cours de l'état 3, c'est-à-dire la phase où, comme partout ailleurs, les pièces sont subdivisées par des murs irréguliers de briques crues, et vous voyez ici donc tous ces murs, vous avez vu sur la précédente, donc ce mur qui est construit au-dessus du pilier, la prolifération de toutes ces petites structures qui sont très souvent des silos à grains. Donc on a le même phénomène que nous avons constaté partout ailleurs, et nous voyons que, par exemple, la pièce 6 est subdivisée en trois compartiments, entre les pièces 6 et 7, ici, l'on construit donc des silos, probablement une mangeoire limitée par un muret. Cet espace donc semble avoir été utilisé principalement pour parquer un animal, et on imagine que ça pourrait être le cheval du curator qui était en quelque sorte installé à cet endroit-là. La pièce 7, qui est ici, a été plus longtemps occupée, puis ensuite abandonnée et comblée par un dépotoir dans la phase finale d'occupation du fort. Cette phase finale d'occupation du fort, que j'appelle état 4, donc qui voit la création du dépotoir dans ce secteur-là, est aussi liée à la construction d'une série de compartiments dans ce secteur qui sont accolés au bâtiment central qui remonte à la phase 1, à l'état 1 du fond. Alors voici une vue de l'état 3 dans l'angle nord-ouest, avec la prolifération donc de ces constructions un peu anarchiques, des silos à grains, une mangeoire, et ces petits murs. Donc on voit la même chose dans la pièce d'à côté, toujours ces silos qui sont assez caractéristiques. Et donc dans la toute dernière phase d'occupation du fort, on voit, donc ici vous avez l'entrée du fort, le bâtiment central qui est en partie détruit par l'effondrement du puits, et la construction accolée à ce bâtiment central d'une série de silos à grains. Silos à grains qui, comme vous le voyez, ont livré un grand nombre d'ostracas. Et je pense donc que ce sont des silos qui ont été utilisés pour faire des distributions. En effet, on y a trouvé la majorité des 96 ostracas qui sont des ordres de livraison de blé à des individus qui portent des noms barbares. Ces ostracas, ces ordres de livraison, datent tous de la même période, une période de 7 jours, au cours du mois de Pharmouti d'un an 11, d'un règne qui, selon moi, ne peut être que celui de Galien, comme je vais le montrer un peu plus loin. Hélène Cuvini a présenté cet ensemble d'ostracas dans un colloque qui s'appelle « Inside and Out, Interaction between Rome and the People of the Arabian and Egyptian Frontier in Late Antiquity », tenu en octobre 2012 à Ottawa, et dans un article d'ailleurs qui s'appelle « Papyrological Evidence on Barbarian in the Egyptian Eastern Desert », que j'utilise, dont je résume ici les conclusions parce qu'elles nous intéressent directement pour l'abandon du fort. Donc ces ostracas sont des reçus de distribution de blé. Des distributions de blé qui sont faites à des barbares qui sont tous appelés par leur nom. Ces ordres se présentent de la façon suivante. La 11e année, à une date qui varie donc entre le 22 et le 28 du mois de Pharmouti, ce qui est pour nous entre le 17 et le 23 avril, chaque texte dit, on a mesuré le blé pour un tel, donc c'est le nom de la personne, c'est-à-dire celui qui porte le reçu, au nom d'un tel qui est le bénéficiaire. Donc souvent, ce n'est pas le bénéficiaire lui-même qui vient chercher le blé, mais il envoie quelqu'un à sa place. Et on lui donne donc telle quantité de blé qui varie entre 2 matias, soit environ 7 litres de blé, et 2,5 cartables, soit environ 100 litres de blé. Puis ensuite, sur l'ostracone, on inscrit le total des artables lorsqu'il y avait plusieurs bénéficiaires sur le même reçu. Le total du blé qui a été comptabilisé par ces reçus est au moins de 5 820 litres de blé, soit la charge de 25 chameaux. Mais c'est bien entendu un minimum, car il est certain que nous n'avons pas tous les reçus. Un certain nombre, voire le plus grand nombre, a dû être jeté dans le puits, par exemple. Alors, comme vous le voyez sur cet ostracone, tous les reçus sont barrés d'une croix qui les annule. Ce qui indique donc qu'après la distribution, ils étaient annulés de façon à ne plus pouvoir être utilisés. Les noms des bénéficiaires sont tous de consonances étranges. On trouve un Ngosarek, un Makak, un Baratik, un Sogod, un Masaki, un Chemnin, une Tamenrou, etc. Les recherches sur leur onomastique montrent que ces noms ne sont pas arabes, mais qui se rapportent à des tribus apparentées aux troglodytiques et aux agriophages, c'est-à-dire à des populations implantées au sud de Bérénice et qui sont les ancêtres des Blémies. Mais leur chef, Baratite, qui se qualifie lui-même d'Hippoturanos dans un ostracone que nous avions trouvé antérieurement à Didymoï, ne donne pas le nom de leur tribu. Il se contente d'indiquer son propre titre, Hippoturanos des barbares, c'est-à-dire sous-tyran des barbares, ce qui est évidemment le titre par lequel les Romains l'appelaient. À cette époque, en effet, il semble que le terme blémie, qui s'imposera peu après, notamment lorsque ces nomades prendront Coptos en 280 après Jésus-Christ, ce terme de blémie donc, ne désigne pas encore l'ensemble des tribus du désert, et il est vraisemblable que chaque tribu avait son nom. Malheureusement, pour les Romains, cela devait être difficilement compréhensible, et donc on les appelait globalement les barbares. La découverte de ces ostracas renforce donc, selon moi, l'idée que le bâtiment central est bien le lieu d'administration du fort. C'est probablement dans cette pièce que se tenait le scribe qui recueillait les bons de distribution apportés par les bénéficiaires après qu'ils aient obtenu leur ration qui était tirée des silos. Le scribe devait alors inscrire la quantité distribuée sur un tableau récapitulatif, probablement sur papyrus, et barrer d'une croix le reçu pour marquer que le blé avait été délivré et qu'il avait été pris en compte et que le scribe avait pris en compte le bon de livraison et donc qu'on pouvait le jeter, ce qui explique que nous les ayons retrouvés jetés dans les silos. L'autorité qui organisait ces distributions est évidemment le préfet de Bérénice, qui, comme je vous l'ai dit l'année dernière, se trouvait à Coptos et qui donc donnait des ordres à ses troupes en conséquence. On doit donc imaginer qu'un accord avait été passé entre l'administration romaine et les barbares, c'est-à-dire ces nomades du désert, barbares représentés par leur chef, Baratite. Celui-ci devait fournir à l'administration une liste de bénéficiaires avec des quantités de blé qui devaient correspondre à des services rendus, réels ou fictifs. Il faisait établir donc par son propre scribe à lui les bons eux-mêmes que les bénéficiaires ou les mandataires présentés au fort de Xérone pour obtenir leur quota de blé. Le scribe de l'administration romaine donc devait collationner le bon avec sa propre liste et l'annuler lorsque la distribution était faite. Alors, évidemment, la raison de cette distribution n'est pas explicitée parce que, comme vous le voyez, ce sont des documents qui sont techniques et qui ne donnent pas de grands discours d'ordre politique. Mais je crois qu'il faut relier ces distributions à la diminution sensible des garnisons dans les forts, dont nous avons vu la manifestation archéologique tout à l'heure, quand j'ai parlé principalement du secteur nord-est du fort, lorsque l'on voit l'abandon de certains casernements, l'élevage des animaux dans les pièces abandonnées, la diminution de taille des thermes, je vais y venir, et le manque d'entretien des citernes qui deviennent progressivement des dépotoirs, et enfin le boussage partiel des portes d'entrée de l'ensemble des forts pour rendre leur défense plus aisée. Cette diminution des effectifs ne permettait plus aux quelques soldats en poste de tenir en respect les barbares, et il fallait donc trouver un compromis, établir une collaboration en achetant leur bienveillance par des biens, des distributions plus ou moins régulières de nourriture sous forme de blé et probablement aussi sous forme de pain. Je crois que la présence récurrente de fours à pain construits dans les dernières années des forts de Dios et de Xérone s'inscrivent dans ce contexte. En effet, j'imagine mal qu'on soit obligé de faire de grandes boulangeries dans ces forts au moment où on voit bien qu'ils sont partiellement abandonnés. Donc je pense donc qu'outre les distributions de blé dont nous sommes sûrs grâce à ces ostracas qui ont été retrouvés dans le fort de Xérone, l'armée devait faire aussi du pain en grande quantité et le distribuer aux barbares. Venons-en maintenant au sanctuaire. Le sanctuaire donc a été fouillé par Michel Redé et qui est situé entre le prétorium, que vous voyez ici, donc vous reconnaissez son pilier central, une des pièces, et les citernes qui sont situées ici. Du fait de la présence des structures bâties qui sont bien conservées et qui sont attribuables globalement à l'état 3 du fort, On ne sait si cette chapelle, ce sanctuaire, était déjà situé à cet endroit lors de l'étape. Au vu des résultats d'un sondage partiel, Michel Redé pense que ce n'est pas le cas et que les murs de l'état 1 dessinent plutôt un caserne. L'état 2, c'est-à-dire la phase qui correspond à la construction dans l'angle nord-est d'un grenier et à la réfection du praetorium dans l'angle nord-ouest, l'état 2 pourrait être marqué dans ce secteur par des sols de terre qui ne semblent pas non plus faire partie d'un lieu de culte. Mais la fouille complète de ces niveaux n'est pas faite et donc on ne peut pas l'assurer. Ce qu'on connaît bien par contre, c'est l'état 3 et donc la chapelle telle qu'elle fonctionne jusqu'à la fin de l'occupation. À cette époque-là, la chapelle mesure 5,20 m de longueur par 2,60 m de largeur. Elle comporte une entrée que vous voyez ici, un couloir qui menait à un podium dans lequel se trouve un espace en creux que nous allons voir en détail et qui est lié à une niche creusée dans le rempart, niche dans laquelle il y avait certainement une statue de culte ou l'équivalent. L'entrée se faisait par le nord-ouest, c'est-à-dire par ici, et elle était précédée, donc vous voyez ici l'entrée, elle était précédée, comme a dit Dumoy, par un autel vertical bâti en briques. Le foyer qui était lié à cet autel garde des traces de combustion, de produits alimentaires, notamment de céréales, de raisins, de dattes et de fleurs d'armoise, dont les propriétés odoriférantes et médicinales sont bien connues. Donc, il faut imaginer que c'est là que, vous voyez, tout autour, il y a des cendres, c'est là que l'on faisait les sacrifices, enfin, en tout cas, une partie d'entre eux, et que l'on brûlait des offrandes. Ensuite, il y avait un petit escalier qui permettait d'accéder à ce couloir qui était précédé par une marche dallée de dalles de schiste soigneusement liées au mortier de chaux et qui forme donc une espèce de grossière mosaïque rend le lieu beaucoup plus solennel. Cet escalier a été réparé à plusieurs reprises au cours de l'état 3 et de l'état 4 et donc il y a plusieurs phases de réparation notamment de cette petite mosaïque. L'escalier permettait d'accéder, donc vous voyez l'escalier est ici, permettait d'accéder à un couloir et sur le côté se trouvaient probablement des autels secondaires qui étaient assez mal conservés et surtout un bassin que vous voyez ici, surmonté d'une niche où il y avait à voir une petite statuette. Un bassin de ce même type, vous le souvenez, a été trouvé dans la chapelle de Dios et on doit donc l'attribuer là aussi à des ablutions rituelles. Beaucoup plus intéressant est cet autre bassin, en quelque sorte, qui est situé au bout du couloir. En réalité, ce n'est pas un bassin, mais un caisson enterré, bâti à la chaux, qui était à l'origine fermé par une trappe de bois. Il mesure 1,10 m par 1,20 m et les comparaisons que l'on peut faire avec d'autres camps militaires montrent que c'est l'endroit où l'on conservait la caisse du corps de troupes, le lieu en quelque sorte où l'on plaçait l'argent des soldats sous la garde de la divinité qui est en l'occurrence Athéna, hein, Minerve. Cette arca a été fouillée, contenait très peu de choses, bien entendu, l'argent avait été enlevé, et on y a trouvé principalement un fragment de brûle-parfum qui était grossièrement taillé dans une anse d'amphore, et surtout un fragment de statuette en terre cuite de Minerve, que vous voyez ici, qui correspond à un modèle qui est connu ailleurs, notamment dans le fort de Crocodilo, où j'avais trouvé une statuette un peu plus complète, où l'on voit donc Minerve qui tient la lance ici et le bouclier de l'autre, et à la base du bouclier, il y a une toute petite veilleuse. Et donc, il faut imaginer que ce n'est certainement pas la statue de culte, hein, mais que c'est une veilleuse qui était en permanence allumée dans le sanctuaire et qui, en quelque sorte, l'éclairait la nuit. L'identification du sanctuaire et surtout de la divinité à laquelle il était dédié est complétée par l'abondant mobilier rituel qui a été retrouvé en contrebas de la chapelle dans la citerne voisine. Là ont été mis au jour un bras de statue en bronze qui appartient à une statue de Minerve, une statue composite. Probablement le corps était en bois et puis là on a uniquement les membres qui étaient en bronze. Et on y a aussi trouvé des statuettes en terre cuite, comme par exemple ce chameau qui porte des amphores ici, et des objets rituels tels que ce brûle-parfum en terre cuite. L'identification est également permise par un ostracone qui a été trouvé dans un niveau de l'état 3 de la pièce 6, qui est particulièrement explicite sur la divinité vénérée en ce lieu. Il s'agit en effet d'un brouillon de rapport qui a été adressé au préfet de Bérénice et qui indique qu'une nuit, un soldat s'est introduit dans l'Athénadion, probablement pour voler l'argent qui était, comme je vous l'ai dit, situé dans l'arca, dans cette caisse souterraine, mais qu'il a été surpris par la garde et que dans son trouble, il est tombé dans la citerne. Donc ce fait divers nous apprend que, nous confirme en quelque sorte que le sanctuaire était bien dédié à Athéna et qu'il portait donc le nom d'Athénadion, que vous pouvez lire très clairement ici, Athénadion, c'est ce que j'ai entouré de violet sur l'ostracone. Par ailleurs, associé à tout ce mobilier rituel, nous avons trouvé trois petits ostracas, donc trois petits fragments de céramique qui portent des chiffres suivis d'un nom de Dieu. Le nom de Dieu est au génitif. Comme les ostracas du même type qui ont été trouvés dans la chapelle de Dios, ces jetons devaient être tirés au sort et devaient donner accès à des oracles qui portaient notamment sur la destinée du grand et périlleux voyage vers l'Inde que les consultants s'apprêtaient à faire. Il faut effectivement imaginer que marchands et les marins qui se dirigeaient vers le port de Bérénice étaient terriblement inquiets pour ce grand voyage à travers l'océan où ils étaient poussés par la mousson avec une grande vélocité d'un côté mais de grands dangers de l'autre, et donc ils voulaient s'assurer de la protection divine et surtout connaître l'avenir, savoir si ce voyage serait heureux. Et comme je vous l'avais expliqué l'année dernière, les réponses des dieux sont toujours bienveillantes et prudentes. Et donc, les consultants étaient certainement rassurés à peu près autant que lorsque nous consultons aujourd'hui un voyant. Donc, on a donc là, à nouveau, la certitude que tous ces sanctuaires situés dans les forts avaient plusieurs utilisations. C'était les sanctuaires officiels des soldats, hein, et là nous en avons plusieurs éléments pour le dire, notamment le fait qu'on conserve la solde, enfin une partie de la solde, sous la protection de la divinité. C'est là qu'on y vénère et qu'on y garde les enseignes du corps de troupe, mais également c'est là que les voyageurs viennent consulter les dieux pour savoir leur avenir et se mettre sous leur protection. Lorsque nous continuons notre tour du fort, nous arrivons enfin au quatrième angle, celui qui est situé au sud-ouest, où il y a à la fois les citernes qui remontent à la première phase, nous l'avons vu, je n'y reviens pas, et il y a tout un ensemble thermal dont les vestiges sont surtout caractéristiques des états 2 à 4 du fort. En effet, comme je vous l'ai dit, les probables termes de la première phase ont été totalement démontés lors de la reconstruction qui se passe vers la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, et il n'en reste rien. Par contre, de la deuxième phase, nous avons quelques éléments, surtout dans la pièce froide qui est ici. Donc voici une vue d'ensemble des thermes tels qu'ils se présentent à la fin de l'occupation du fort et à la suite donc de nombreuses reconstructions. À la fin de l'occupation, nous avons ici le frigidarium, c'est-à-dire la pièce froide, ici le tepidarium, la pièce tiède, et là le caldarium, la pièce chaude. Mais cet état final est donc le résultat de nombreuses reconstructions et les vestiges de la phase 2, de l'état 2 du fort, sont uniquement concentrés dans le frigidarium où cet endroit-là qui a été le moins remanié par la suite, ce qui est assez logique puisque les pièces froides subissent par nature, ne subissent pas de choc thermique comme les pièces tièdes et les pièces chaudes et donc nécessitent moins de réfection. Toutefois, cette pièce a été refaite à plusieurs occasions, notamment on a reconstruit plusieurs fois les baignoires froides que vous voyez ici, elles étaient d'abord là, puis ensuite ici. Il y a eu plusieurs changements dont je vous passe les détails. Cette deuxième phase, donc, est certainement postérieure au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ et peut-être antérieure au IIIe siècle. J'ai tendance à la relier à la construction du l'oréum d'un côté et de la réfection du praetorium de l'autre. Je suis plus en peine, et ma collègue Bérangère Renon aussi, pour dater la phase 3, qui voit la réduction de la pièce froide ici et la construction de la pièce tiède et probablement d'une pièce chaude. Ces deux salles étaient chauffées par la même bouche du four qui est située ici. Et cette phase est certainement contemporaine globalement de l'état 3 du fort, c'est-à-dire de cette prolifération de pièces que nous avons vues un peu partout, mais l'absence de mobilier archéologique dans les couches liées à sa fondation ne permet pas de le dater avec grande précision. En revanche, nous avons quelques idées des combustibles qui sont utilisés à cette époque-là, car les niveaux de cendres, eux, étaient conservés, et on sait qu'on y brûle principalement du bois d'acacia, qui est le bois local, des épineux et surtout des déjections de dromadaires. Lors d'une phase 4, qui est vraiment la phase finale du secteur thermal, on a refait l'ensemble des thermes, on a reconstruit à cette époque-là le caldarium. Et là, on a fait une nouvelle baignoire chaude, vous voyez, qui est chauffée classiquement par un praefornium. Donc, l'air chaud passe sous la baignoire chaude et permet donc d'avoir un bain chaud. On a redallé la pièce tiède et on a à nouveau redécoré ou refait la pièce froide. Cette phase 4 du secteur thermal me paraît s'inscrire dans le courant de la première moitié du IIIe siècle et donc dans cette grande phase d'occupation du fort que j'ai appelée l'état 3 du fort, qui est celle qui nous semble être une phase d'occupation maximale. Il y a une dernière phase d'utilisation du secteur thermal où le caldarium continue d'être occupé, mais par contre, le tepidarium, c'est-à-dire la pièce tiède, n'est plus utilisé comme pièce tiède car on bouche l'entrée des gaz chauds. Donc on a une réduction à cette époque-là des espaces et une modification du parcours. On ne rentre plus par le frigidarium mais par un couloir qui conduit dans l'ancien tepidarium qui à ce moment-là devient le nouveau frigidarium. Vous voyez donc des évolutions qui sont assez rapides et sensibles et qui ne sont pas sans signification car il me paraît probable que cette dernière phase du secteur thermal est à peu près contemporaine du dernier état des angles nord-est et sud-est que nous avons vu et donc de cette phase où l'occupation se réduit dans le fort, donc on a moins besoin de place dans les thermes, et évidemment on chauffe plus qu'une seule pièce, et puisque toute une partie du fort est désormais abandonnée. Toutefois, comme vous le voyez, les thermes ont été entretenus et même transformés jusqu'à l'extrême fin de l'occupation du fort. Ce n'est pas le cas des pièces annexes des thermes qui sont situées sur le côté. Alors ici, vous voyez une vue un peu plus rapprochée de cette baignoire chaude avec les conduits de chaleur sur les côtés qui permet donc de chauffer le bain. Et vous voyez ici, devant les thermes, tout un ensemble de constructions un peu complexes et, disons, irrégulières, sur lesquelles il faut s'apesantir un petit moment. En effet, au cours de l'état 3 du fort, c'est-à-dire de la pleine occupation et de l'époque où les thermes fonctionnent à fond, un bâtiment de 5 pièces est édifié au sud. Et ces 5 pièces sont distribuées autour d'un pilier central que vous voyez ici, et ce sont 5 petites pièces avec un petit bassin ici et une annexe ici. Donc 4 pièces distribuées autour d'un pilier central qui ouvrent les unes sur les autres, et la circulation semble se faire autour du pilier. La pièce annexe qui est accolée au nord présente un sol décoré et puis une espèce de petit bassin avec une décoration assez curieuse de tessons de céramique et de pierre qui représentent des motifs floraux. Ce type de décoration, la proximité des thermes, la découverte de plusieurs pièces de monnaie sur les sols, alors qu'elles sont rarissimes partout ailleurs, suggère que ces pièces étaient des lieux dévolus à la prostitution. Prostitution dont nous savons la place éminente qu'elle tenait dans la vie des soldats grâce à un grand nombre d'ostracas. Et je vous renvoie à un très bel article d'Hélène Cuvigny dont le titre parle de lui-même. Le titre, en effet, est le suivant. Femme tournante, remarque sur la prostitution dans les garnisons romaines du désert de Bérénice, paru dans Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphie, 172-2010, page 159-166. Toutefois, j'en extrais pour vous quelques indications qui sont utiles à la compréhension des lieux et des pratiques. En effet, les prostituées étaient louées au moins par des proxénètes qui pouvaient être soit des soldats, comme un certain Longinus, que nous connaissons par ailleurs, soit par des vivandiers qui étaient chargés d'approvisionner les forts de la route de Myos Hormos et de Bérénice en vin, en nourriture, en femmes, et nous en connaissons un particulièrement par une très abondante correspondance, un qui s'appelle Philoclès et qui était actif à la fin du règne de Domitien et durant le règne de Trajan et celui d'Adrien. Ces proxénètes distribuaient donc les prostituées dans les forts et les filles faisaient ce qu'on appelle leur tour. Et là, nous avons le terme employé à l'époque, leur tour qui s'appelle Kukletiken, leur tour dans les forts, et on les changeait périodiquement de garnison. Le terme Kukletiken désigne à la fois le contrat de location et le salaire de la prostituée. Il vient du verbe tourner, et qui est évidemment tourné entre les soldats de chaque garnison au cours de leur mois de contrat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque contrat donnait lieu au paiement d'une taxe de 20%, la quintana, qui était versée au receveur des taxes, le conductor. Nous savons par les ostracas de Bérénice, dont nous reparlerons le 18 novembre, que cette taxe frappait toutes les transactions qui se faisaient dans le district militaire de Bérénice. Donc, ce secteur situé au nord des thermes, que nous supposons être destiné à la prostitution, a fonctionné pendant tout l'état 3, mais il est abandonné lors de l'état 4, c'est-à-dire au moment où on fait ces fameuses distributions de blé et probablement de pain, et au moment où la garnison est très réduite. Donc on voit bien que dans la phase finale d'occupation des forts, beaucoup de services, en quelque sorte, sont progressivement abandonnés et les soldats ne sont plus que très peu nombreux. Alors maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe dans le cimetière. Je suis bien en peine d'attribuer à une période précise les tombes que j'ai pu fouiller dans le cimetière qui est situé à l'ouest du fort. En effet, les tombes, lorsqu'elles n'ont pas été pillées, n'ont pas livré de mobilier funéraire. On peut donc seulement les attribuer globalement à l'époque romaine, à l'exception, nous allons le voir, de la tombe 2. Alors voici le plan de ce cimetière. Il est tout à fait certain que je n'ai pas fouillé l'ensemble des tombes. Je n'ai pu fouiller que celles dont on pouvait voir un affleurement de pierre en surface. Dans la mesure où le Wadi a déposé des alluvions un peu partout, il est probable qu'il y a d'autres tombes qui sont beaucoup plus enterrées et que je n'ai pas vues. Mais on en a suffisamment pour se faire quand même une assez bonne idée. La plus ancienne est probablement la tombe 2 qui est située ici, et qui malheureusement avait été pillée, mais qui, fait rare, est une incinération. Fait rare parce qu'on incinère très peu en Égypte. Il est donc probable qu'il s'agit d'un occidental qui a été incinéré. Elle était donc, comme je vous l'ai dit, malheureusement pillée, mais j'ai pu trouver des tessons d'une marmite assez caractéristique de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle après Jésus-Christ. Ce qui restait de la tombe, comme vous pouvez le voir là, permet de savoir que le corps avait été brûlé sur place et que le bûcher avait été ensuite recouvert de pierre. Les 6 autres tombes sont des inhumations, recouvertes de dalles et de grosses pierres. La tombe 3 était celle d'une femme gracile portant un anneau de bronze au doigt, la 4 celle d'une tombe d'une femme âgée morte de la tuberculose. La tombe 6 appartenait à un homme robuste, probablement mort aussi de la tuberculose. Et la tombe 7, que vous voyez ici, dans laquelle le squelette était enveloppé d'un linceul partiellement préservé, le squelette était en suffisamment bon état pour qu'on sache que c'était le squelette d'un homme d'un âge mûr qui présente de nombreuses anomalies osseuses dû à un travail physique intense et à des carences alimentaires. D'autres particularités osseuses, notamment sur les côtes, montrent qu'il souffrait lui aussi de la tuberculose. Enfin, la tombe 8, vous voyez ici sur le côté, contenait le squelette d'un homme d'âge mûr, probablement d'origine africaine, mort plus âgé, vers 50-60 ans, et qui avait exercé des efforts physiques répétés, notamment au niveau du bras droit. Mais lui n'était pas porteur des signes de la tuberculose. Toutes ces tombes à inhumation pourraient dater de la fin du 2e et du 3e siècle après Jésus-Christ. On remarquera que les hommes présentent de nombreuses microfractures des os du bras et des jambes qui montrent qu'ils ont tous fourni des efforts physiques importants. Il pourrait donc s'agir de chameliers ou de porteurs. Par ailleurs, comme vous avez pu le voir, presque tous, sauf le probable Africain, étaient atteints de tuberculose et sont probablement morts de tuberculose, une maladie qui a peut-être été acquise dans les ports de la mer Rouge. Il faut noter qu'une fosse située un peu à l'écart contenait le squelette d'un mouflon découpé en grands quartiers, la tête et le tronc étant posés dessus. La proximité de cette fosse avec les tombes d'époque romaine rend vraisemblable son appartenance à l'Antiquité. Mais il faut probablement y voir un rituel de population locale d'éleveurs, ceux qui sont qualifiés de barbaroïs dans les ostracas, et on doit probablement l'attribuer soit à la dernière phase d'occupation du fort, soit à l'un des épisodes de réoccupation ponctuelle au cours du 5e siècle. Alors, résumons donc maintenant ce que nous avons appris des 4 campagnes de fouilles sur le fort de Xeron-Pelagos. 4 campagnes sur un fort qui s'est avéré essentiel pour notre connaissance de l'ensemble du dispositif de contrôle de la route de Bérénice. On a de bonnes raisons de penser qu'il fut construit en 76-77 et qu'il a fonctionné d'abord, comme tous les forts de cette époque, avec une stricte discipline dont témoigne à la fois la régularité des constructions et la gestion rigoureuse des déchets toujours transportés hors du fort. Après une possible période d'abandon dans la seconde moitié du IIe siècle, je dis possible parce que je n'en suis pas tout à fait certain, on a un niveau de sable sur les niveaux d'abandon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une tempête de sable qui a duré un jour ou est-ce que c'est le signe d'un abandon de un an, 10 ans, je n'en sais rien. Donc après cette possible période d'abandon, le fort a subi des transformations notables. Et notamment, on y a créé une grande salle à colonnes qui pourrait être un auréum, on a refait le prétorium et on a reconstruit les thermes. Au cours de cette phase, la gestion des déchets reste identique à celle de la phase précédente et les ordures sont encore portées sur le dépotoir. Cet état, que j'ai appelé état 2, pourrait dater du dernier quart du IIe siècle, à peu près en même temps que la réoccupation de Didumoy sous Marc Aurèle, dont l'inscription témoigne d'une préoccupation de restauration de l'autorité dans le désert. L'état 3 est difficile à dater, en tout cas ses débuts, faute d'indicateurs précis, tels que des inscriptions ou des ostracas qui auraient été trouvés en couche et qui donneraient des dates. Mais je crois qu'il commence dans le premier tiers du IIIe siècle de notre ère. Il marque certainement l'arrivée de troupes dont les règles disciplinaires sont différentes de celles en vigueur jusqu'alors. Ces différences se manifestent par la création de pièces, souvent petites et désordonnées, inégales, toutes dotées de silos à grains, dont la présence indique la fin de la gestion centralisée de l'approvisionnement depuis un grenier commun, et nous avons vu que le grenier est rasé à cette époque-là, approvisionnement tel qu'on le connaissait dans les forts des 1er et 2e siècles, comme Maximianon et comme Xéron lui-même, jusque à l'époque où on détruit le grenier commun. La mutation est aussi manifestée par le rejet des déchets, non plus à l'extérieur du fort, mais dans le fort lui-même, signifiant donc un relâchement de la discipline, mais je dirais même plus, c'est plutôt un changement de culture des hommes de troupes et du commandement à cette époque-là. À titre d'hypothèse, on pourrait penser que c'est l'arrivée de corps de troupes orientaux qui ont donc d'autres mœurs, peut-être les archers palmyréniens dont nous savons par des inscriptions de Bérénice que nous verrons prochainement et qui sont déployés dans le désert à partir du deuxième quart du premier siècle, du troisième siècle après Jésus-Christ. L'état 4 que je date vers le milieu du IIIe siècle, est lui caractérisé par l'abandon de certaines parties du fort, telles que les pièces 7 et 8 et l'angle nord-est, par une modification des thermes marquée par le rétrécissement et par la construction de fours à pain et de silos à l'ouest du bâtiment central. La question essentielle pour le commerce érythréen est donc de fixer la date du retrait de l'armée. Et pour cela, il faut revenir d'une part sur les objets importés lors de l'état 4 du fort, et d'autre part sur les ostracas de distribution du blé. Les dernières couches d'occupation du fort et les dépotoirs intérieurs contiennent un mobilier presque exclusivement composé de céramiques à pâte calcaire, rose à blanche et quelques importations. J'y ai trouvé des amphores dites africaines 2, des Dressel 30 de Maurétanie césarienne, des Capitanes 2 qui doivent contenir du vin produit dans la mer Égée, des plats en sigillée claire africaine C, donc produite en Afrique au IIIe siècle, des vases modelés fabriqués par des populations indigènes que l'on appelle Eastern Desert Ware, et vous avez ici un exemple de ceci. Dans la citerne 42, qui a servi de dépotoir dans la phase finale d'occupation, on a trouvé des quantités notables d'amphores gauloises IV, dont une marquée SPR, qui est un timbre qui est connu à Didymoy dans la phase finale et dans le port de Télomarsus au IIIe siècle après Jésus-Christ. On y a trouvé quelques amphores Dressel 30 de Maurétanie césarienne, un fond d'amphore africaine II, elle aussi, du milieu du IIIe. Les ultimes aménagements, devant les casernements sud-est du fort, ont fourni une très intéressante imitation d'amphore gauloise IV produite en Cilicie, que vous voyez ici, et des imitations également d'amphore gauloise IV produites en Syrie, dans l'atelier de Hasselbacit. Tout ce matériel, donc, est bien connu ailleurs, vers le milieu et dans le troisième quart du IIIe siècle. C'est pourquoi je pense que les ostracades distribution de blé datent du règne de Galien. Nous avons vu en effet qu'il porte une date dans la 11e année de règne d'un empereur qui n'est pas spécifié. L'absence du nom de l'empereur devient courante à partir de la fin du IIe siècle et donc ne surprend pas. Au cours du IIIe siècle, seuls Alexandre Sévère et Galien ont régné plus de 10 ans, ce qui simplifie pour nous la détermination. Attribuer les ostracas à Alexandre Sévère donnerait la date de 232, qui est beaucoup trop tôt pour le mobilier archéologique. Il est donc assuré que le fort de Xéron était encore occupé en 264. Comme l'Hippoturanos des barbares, le dénommé Baratite, est aussi mentionné dans plusieurs ostracas trouvés dans le fort de Didymoy, il est aussi certain que ce dernier fort était toujours occupé à la même date, de même que celui de Dios, qui a livré un mobilier d'importation analogue, quoique moins riche que celui de Xéron. On notera par exemple l'existence de plusieurs vases en céramique modelée Eastern Desertware qui signalent la présence de nomades dans le camp ou à tout le moins des relations suivies avec. La transformation des casernements en bergerie pourrait s'expliquer par une présence accrue des barbares dans les forts eux-mêmes. Il est probable que la distribution de blé de 264 ne fut pas la seule, ni qu'elle marque la dernière action faite dans ce fort. Mais il faut souligner que les ostracas ont été trouvés dans le dernier niveau d'occupation. On doit donc dater l'abandon des années qui suivent immédiatement. Or, une date s'impose pour un tel retrait de l'armée, c'est 270. En effet, en 270, les Palmyréniens s'emparent de l'Égypte et il s'ensuit une désorganisation durable de l'administration. Le système de contrôle de la route de Bérénice était déjà à bout de souffle. Nous avons vu que les effectifs étaient réduits et qu'il fallait acheter la tranquillité des nomades. Je pense donc qu'il faut fixer à cette date 270 l'abandon du contrôle de la route de Bérénice qui intervient donc près de 3/4 siècle après celui de la route de Myos-Hormos. Par la suite, après l'abandon du fort, les ruines ont été sporadiquement fréquentées, comme l'attestent des niveaux de surface que nous avons plusieurs fois mentionnés en divers endroits, et la découverte dans la citerne 42, au-dessus des niveaux de dépotoir qui correspondent à la phase finale d'occupation du fort par l'armée, d'un très épais niveau de fumier de mouton qui est associé avec du mobilier du 4e et surtout du 5e siècle après Jésus-Christ, voire du début du 7e, c'est-à-dire des amphores de type Gempeler K704, des Late Roman 1 et des Late Roman 7, comme vous voyez ici, qui sont donc datés principalement des 5e et 6e siècles. Alors, qui s'abritait alors dans le fort ? Sont-ce des voyageurs traversant le désert depuis Bérénice, malgré l'absence de protection de l'armée ? C'est possible, car nous savons par les graffitis du Wadi Meni que la route était encore parcourue par des caravanes à l'époque proto-byzantine. Mais il est aussi possible que les nomades se soient servis de ces forts comme lieu de campement. En effet, dans les niveaux de dépotoir qui couvrent la citerne 42, comme je vous l'ai montré, il y a ce très important dépôt de crottes de moutons. Il est donc probable qu'au gré des saisons, les ruines du fort étaient utilisées à la fois par les deux groupes, les nomades et les voyageurs, au cours des 2 siècles qui suivirent le retrait de la troupe, c'est-à-dire durant la période au cours de laquelle le port de Bérénice reste actif. Et donc, pour dresser un tableau complet, il nous faudra examiner maintenant l'évolution des pores eux-mêmes, en commençant par celui de Myos Hormos, que j'étudierai le 28 octobre, et en continuant par celui de Bérénice, que je présenterai le 18 novembre. Mais auparavant, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, Dominique Cardon exposera le résultat de ses recherches sur les tissus trouvés dans le désert oriental et montrera en quoi il témoigne du commerce avec l'Inde. Je vous remercie.